Que la paix de Dieu soit sur vous ce matin, le shalom de Dieu. Que la grâce, l'amour, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos cœurs, pas simplement ce matin, mais chaque jour de vos vies. Que la communion du Saint-Esprit nous unisse avec notre Père Céleste, avec notre Sauveur Jésus-Christ, et nous unisse les uns les autres. C'est ma salutation pour vous ce matin. Mon royaume n'est pas de ce monde. Heureusement, nous attendons ce royaume, parce qu'avant la venue de ce royaume, bien des surprises nous attendent. Pour le meilleur, pour le pire, nous le verrons. Le nouveau président vient d'être élu et sera à la tête de la France durant 5 ans. Si certains chrétiens auraient préféré tel ou tel en tant que chrétien, il est de notre devoir de prier pour notre gouvernement, afin que l'Esprit de Dieu soit le maître des événements à venir et guide les décisions qui seront prises pour notre pays. Qu'il n'y ait pas des lois iniques, que Dieu puisse stopper tout projet de loi inique, s'il y en a. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, l'apôtre Paul nous dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Unissons-nous dans la prière, implorons le Seigneur qu'il fasse grâce sur notre pays. Demandons à Dieu que dans notre pays, les lois et leur application n'entravent pas notre liberté de religion et d'expression. Parce que dans les temps de la fin, comment les choses vont-ils évoluer? Lui seul le connaît. Que nous puissions mener une vie qui exprime librement dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et à Jésus-Christ. Que nous ayons la liberté d'évangéliser, que par notre témoignage, nous menions les hommes à la connaissance de la vérité. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Fléchissons les genoux devant lui. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma face et ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Est-ce que notre pays a besoin de guérison? Je crois que notre pays a besoin de guérison. Notre pays est malade. Notre pays sombre dans le péché. Que font les gouvernements de France? Ils piétinent les chrétiens, les valeurs fondamentales chrétiennes. Si on énumérait les dernières lois qui ont été pendant ce dernier quinquennat, mais nous, nous sommes le sel de la terre. Ne perdons pas notre saveur. Ainsi, ce sel que nous sommes, s'il perd sa saveur, eh bien, il ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Soyons le sel savoureux de la terre. Soyons véritablement la lumière du monde qui éclairons tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Et alors, eh bien, nous verrons là, enfin, la gloire de Dieu dans notre pays et sur notre pays. Ce matin, je ne savais pas si j'allais pouvoir me tenir devant vous. Cela me ramène à une 30aine d'années en arrière. Je devais aussi me tenir devant une assemblée et j'avais des douleurs terribles de dos. Et depuis la distance, depuis la maison où nous étions, on n'avait pas de voiture, il n'y avait qu'un vélo, un vélo chinois. Un jeune Africain me prend sur son vélo, au milieu des nids de poules et tout ça, et puis à chaque fois que j'avais des douleurs de dos. Et puis, Voilà, il y avait, on était plusieurs intervenants, et puis quand mon tour est arrivé, je me suis levé en plié en deux, mais j'ai ouvert la parole. J'ai annoncé la bonne nouvelle et le mal de dos. Je n'ai pas senti le mal de dos pendant le message. Et ce matin, hier ou avant-hier, j'ai dit, est-ce que j'écris à David pour lui dire, non, ce matin, tu ne pourras pas. Et alors là, je me suis souvenu d'il y a une trentaine d'années, j'étais un peu dans la même situation. Je suis souffrant, mais voilà, par la grâce de Dieu, voilà, je continue. Je n'ai pas voulu me soustraire à mon devoir d'amour, de joie et de bénédiction de vous délivrer ce message. La dernière fois que je suis intervenu au milieu de vous, c'était pour vous parler de l'Apocalypse au chapitre 22. Et on avait parlé de cet arbre, d'un arbre de vie. On avait parlé d'une source d'eau vive. On a de la peine peut-être à s'imaginer l'immensité de cet univers, l'immensité. Et il est dit que Dieu ne peut même pas le contenir tellement il est vaste, tellement il y aura des myriades et des myriades, de milliers et des milliers qui seront dans sa présence. Et là, au milieu de sa présence, il y aura un arbre. Est-ce qu'il y aura réellement physiquement un arbre? Parce qu'on sait bien que dans la Bible, on dit que Jésus, il est le chemin, qu'il est le vigneron, qu'il est la porte. Mais dans l'Apocalypse, on va dire qu'il y a un arbre. Mais la dernière fois, on avait vu que cet arbre, c'était Jésus-Christ. On avait vu que cette eau, cette source d'eau vive qui était là, qui jaillissait du trône, bien cette source, qui est notre source à nous, si ce n'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre arbre, où il y a des fruits en chaque saison, et des fruits variés, différents. Est-ce que nous mangerons des fruits? Est-ce que nos corps auront besoin de se nourrir? Ou bien ce sera lui, simplement sa présence, sa vie, tout ce que nous allons recevoir pendant l'éternité. Est-ce que nous pouvons nous imaginer un petit peu cela? Un arbre? Non, pas un arbre, mais la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous imaginer cette source d'eau vive? Non. Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive qui jailliront. Ah oui, il est dit, tiens, de nous-mêmes, si nous croyons, si nous recevons le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive sortir. Mais là, c'est du trône. Alors, des fleuves d'eau vive, voilà, Jésus-Christ, cela coulera, il y a la vie là-haut dans sa présence. Voilà ce que nous avions mentionné la dernière fois donc, que nous étions ensemble. Aujourd'hui, je vais continuer dans l'Apocalypse, toujours. Je vais reprendre certains passages. Là-haut, dans le ciel, une merveilleuse ville, la Nouvelle Jérusalem, notre Dieu l'a construit, a bâti cette Nouvelle Jérusalem pour nous. C'est pour nous. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur, qui un jour habitera dans cette nouvelle ville. Si nous croyons, si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, nous ne serons pas mis dehors. Au contraire, nous serons les bienvenus. Nous sommes appelés son épouse. Si nous croyons en lui, si nous l'avons dans nos cœurs, nous verrons et nous vivrons dans cette merveilleuse ville, dans un cadre si parfait que Dieu a créé pour tous ceux qui sont appelés par son nom. Dans cette ville, nouvelle ville, un arbre, une source d'eau. Quand il est dit, c'est un frère qui me posait la question la dernière fois où j'avais délivré ce message, c'est « Et les feuilles de cet arbre, ils servent à la guérison des nations, qu'est-ce que cela veut dire ? On a besoin de guérison là-haut dans le ciel ?» Oui, il est difficile de fournir une déclaration absolue ou définitive à ce sujet, et surtout en la présence du Seigneur. Car y aura-t-il encore des nations à guérir? Il dit que les feuilles de l'arbre serviront pour la guérison des nations. Ou dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 47, verset 12, dans la deuxième partie, il est dit « Les feuilles de ces arbres fruitiers seront un remède. » Tiens, ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, on le trouve aussi dans le prophète Ézéchiel. Donc de nombreux passages, c'est vrai, dans la Bible, concernent la guérison de Dieu envers ceux qui invoquent son nom et le suivent. Mais cette guérison n'existe pas pour les méchants. Ésaïe 57, versets 15 à 21. Donc, mystère, pourquoi est-il mentionné ces feuilles qui servent à la guérison? Malachi au chapitre 4 et au verset 2, il est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. » La Bible nous parle de guérison. C'est sûr qu'aujourd'hui, Jésus ne guérit plus comme il guérissait lorsqu'il était sur la terre. La guérison était nécessaire, les miracles étaient nécessaires pour convaincre tous ceux qui étaient là que Jésus-Christ était bien celui qui avait été envoyé par Dieu. Aujourd'hui, Dieu guérit encore, mais pas d'une manière si répandue comme du temps de Jésus. Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui. Aujourd'hui, beaucoup viennent à lui, mais pas beaucoup sont guéris. Quelques-uns, mais Dieu guérit encore aujourd'hui, nous croyons à la puissance de Dieu. Mais surtout, au psaume 147 et au verset 3, il est dit « Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » Donc si nous avons des cœurs brisés par la vie, par les difficultés, par les épreuves, dans les couples, dans la famille, auprès des enfants, auprès de nos voisins, si nos cœurs sont brisés, alors là, Dieu guérit tous ceux qui viennent à lui. Il enlève toutes ces blessures, toutes ces amertumes, toutes ces rancunes, tout ce qui est à l'intérieur. Là, Dieu guérit cela. Est-ce que la guérison des nations visera cet effet? Mais pourquoi dans cette nouvelle ville? La guérison peut-être pour les cœurs brisés qui se souviendront des êtres chers perdus pour l'éternité. Est-ce que nos cœurs qui sont brisés, est-ce que lorsque nous serons dans sa présence, nous saurons qu'il y a des êtres chers, peut-être des membres de nos familles, qui se sont endurcis, qui se sont entêtés, qui ont refusé de croire, de se tourner vers Jésus-Christ, et qui seront condamnés, qui seront dans un lieu de tourment, dans un lac de feu et de soufre. Est-ce que nous aurons, à ce moment-là, dans sa présence, un peu de souffrance? Est-ce que nous réaliserons? Ah, mon mari, mon épouse, mes enfants, si vous aviez cru en ce que je vous ai dit, en ce que vous avez entendu quand vous êtes venus à l'église, en ce que vous avez entendu ou lu au travers des témoignages, au travers des traités que vous avez donnés, si vous aviez pu croire à ce moment-là, vous ne seriez pas là où vous êtes maintenant. Est-ce qu'il y aura des souffrances à ce moment-là et est-ce que cette guérison concernera mystère? Mais ce qui compte pour nous, enfants de Dieu, c'est que son nom sera inscrit sur nos fronts. Son nom sur nos fronts. Le front est souvent l'image de la pensée. La pensée vient dans notre tête. Donc, son nom, notre front. Quelle bénédiction d'avoir son nom sur notre front. Mais si nous recevons son nom sur notre front, c'est parce que nous avons pensé à lui. C'est parce que nous avons vécu avec le caractère de Dieu en nous. Nous nous serons, vous voyez, notre front, nos pensées, se seront intimement liées avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec le caractère de Dieu. Son caractère devient visible. Vous savez, si on nous regarde, on ne nous voit pas différents des autres. Nous avons un corps, nous avons une tête, rien ne nous différencie des gens du monde. Apparemment, extérieurement, mais à l'intérieur, c'est là où fait toute la différence. Dans nos pensées, dans notre cœur, voilà. Dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actes. Là, nous n'agissons plus comme le monde. Mais nous agissons selon ce que Jésus nous a enseigné. Donc son nom sera inscrit sur nos fronts. Il est dit que là-haut, il n'y aura plus de nuit. Plus de peur, plus de crainte, parce que nous aurons une parfaite connaissance. Nous verrons avec les yeux de Dieu. Maintenant, comme nous aurons été transformés en son image, alors nous verrons avec les yeux de Dieu, nous verrons tout ce qui nous entoure. Nous n'aurons plus besoin de la lumière, d'une lampe, ni de la lumière du soleil. Il n'y aura plus de nuit, parce que le Seigneur Dieu nous inondera de lumière. Donc, un arbre, une source de vie, son nom sur nos fronts, plus de nuit, la lumière, une lumière éternelle. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Ce sera la lumière permanente dans sa présence. Jusqu'à ce que ce jour vienne, et nous soupirons après ce jour, les ombres s'évanouiront peu à peu. Quelle bénédiction que déjà de voir en Jésus l'étoile du matin. Mieux vaut voir Jésus comme le soleil, parce que le soleil est plus éclatant, plus lumineux qu'une étoile. Mais quand nous le pouvons, qu'il soit pour nous l'étoile qui annonce le jour et montre l'approche de la lumière éternelle. Vous voyez cette étoile du matin qui est mentionné Jésus-Christ, qui est notre étoile du matin, bien annonce le jour et montre l'approche de cette lumière éternelle dans laquelle nous nous baignerons. Nous nous baignerons dans cette lumière éternelle. Si aujourd'hui je ne suis pas tout ce que j'espère être, cependant je vois déjà Jésus. Cela m'assure qu'un jour je serai semblable à lui. Si déjà ici-bas je suis capable de percevoir un peu quelque chose de la personne de Jésus, alors lorsque je serai semblable à lui, je le contemplerai. Je le contemplerai dans sa gloire, parce qu'il nous aura transformés en son image. S'il ne nous transformait pas en son image, nous ne pourrions pas supporter la lumière divine, la lumière dans laquelle nous nous baignerons. Il faudra d'abord qu'en un clin d'œil, il nous transforme en son image pour que nous soyons capables de supporter et de vivre dans la présence, dans la gloire et dans la lumière de Dieu. Si je n'ai pas maintenant toute la lumière et la joie que je voudrais, c'est vrai parce que cette lumière et cette joie, elle est un peu assombrie, il y a des événements, nous sommes confrontés jour après jour avec des contrariétés, tout ça. Donc, si je n'ai pas maintenant toute la lumière ou toute la joie que je voudrais, je les aurai dans peu de temps. Quand Jésus va revenir, alors j'aurai cette lumière et cette joie. Car aussi sûrement que je vois l'étoile du matin, est-ce que ça vous arrive de regarder vers les nuées, vers le ciel, et vous essayez de discerner cette étoile du matin? Sachez qu'elle nous montre déjà cette lumière éternelle. Elle est annonciatrice de cette lumière éternelle que je verrai, ce soleil de justice que je verrai. Donc aussi sûrement que je vois l'étoile du matin, aussi sûrement je verrai le jour où je serai dans sa gloire. L'étoile du matin n'est jamais loin du soleil levant. Le Seigneur nous a-t-il donné l'étoile du matin? Est-ce que nous l'avons reçue dans notre cœur? Est-ce que nous avons reçu cette étoile du matin, Jésus-Christ, dans notre cœur? Tenons-nous ferme la vérité, la grâce, l'espérance et l'amour que nous avons reçus de lui? Est-ce que nous avons reçu la vérité? Est-ce que nous croyons en la vérité? Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de celle-là. Il n'y a que la vérité, elle n'est que là. Il y en a qui se nourrissent de plein d'autres choses, qui nourrissent leur tête de livres, et qui négligent, ils passent si peu de temps à lire ce livre-là. Il y en a qui passent beaucoup plus de temps à lire tout plein d'autres choses, et qui passent si peu de temps à lire ce livre qui est rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de grâce. Il y en a qui dépensent toute leur énergie à plein d'autres choses. Ils ne vont pas à la source. Ils ne vont pas à cet arbre de vie qui est capable de les nourrir, pas simplement une fois par mois, mais tous les jours, qui est capable de le nourrir. Une fois que nous avons reçu la vérité, une fois que nous l'avons entendue, reçue et crue, alors attachons-nous à cette vérité. Gardons-la d'une manière ferme et solide. Puis l'espérance. Maintenant, nous avons cru à la vérité. Bien, nous savons que cette vérité nous conduit vers... Nous sommes remplis, nous conduit vers l'espérance, vers cette espérance d'un jour nouveau, d'un jour qui va se lever. Cette étoile du matin qui annonce ce soleil de justice, eh bien, voilà cette espérance que un jour, ce ne sera plus le soleil, ce ne sera plus la lune, ce ne sera plus les étoiles qui m'éclaireront, mais ce sera Jésus-Christ, ce sera le soleil de justice. Je vis dans cette espérance, je me nourris de cette espérance, je suis attaché à cette espérance. Et rien ne peut plus me troubler. Tenons donc ferme la vérité, la grâce, l'espérance et l'amour. Est-ce que nous avons reçu son amour? Est-ce que son amour nous remplit? Est-ce que nous avons réalisé que réellement il nous aime? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Est-ce que tu as reçu son amour dans ton cœur? Est-ce que tu vis avec cet amour? Jour après jour, tu vis avec cette assurance qu'il t'aime. Alors s'il t'aime, en retour, qu'est-ce qu'il te demande? Eh bien que tu l'aimes aussi. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force. Alors si nous tenons ferme la vérité, la grâce et l'espérance, alors déjà, alors, nous voyons l'aube de la gloire qui s'approche. Si nous croyons en cette vérité, si nous vivons dans cette espérance, si son amour est en nous, déjà nous pouvons entrevoir la gloire qui s'approche. Si le Père, si Dieu a donné l'Apocalypse au Fils, c'est pour révéler les choses qui se dérouleraient jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment de cette gloire. Donc le Père a donné au Fils l'Apocalypse. Le Fils a ensuite communiqué cette révélation à Jean, au disciple Jean. Béni soit ce disciple Jean, parce que Dieu, il a plu à Dieu de révéler par son Fils à Jean ce message, ce livre. Et Dieu, Jésus-Christ va utiliser un ange pour révéler à Jean toutes ces choses que nous pouvons goûter aujourd'hui. Vous voyez, le Père et le Fils, quelle communion, quelle relation. Quelle relation entre le Fils et l'ange qui est un serviteur de Dieu. Puis Jean a témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il est dit, le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voilà. Si donc nous avons accès, si nous lisons ces choses, nous nous nourrissons des choses qui sont à venir et qui sont tout proches. Dans la Bible, on compte qu'il y a 737 prophéties. Et plus de 600 prophéties sur 737 se sont déjà accomplies et dont on peut vérifier leur accomplissement. Et 319, à peine un peu moins de la moitié de ces prophéties sont relatives à la venue de Jésus-Christ et à son retour. C'est pourquoi il est important d'annoncer et d'annoncer encore que Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons nous préparer et qu'un jour nous serons devant lui et qu'un jour nous aurons des comptes à lui rendre parce que la Bible est remplie de prophéties concernant le retour de Jésus-Christ. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament nous parle de ce retour. 1 sur 25, c'est un quart. Jean nous dit au verset 8 de Apocalypse 22, « Moi, Jean, j'ai vu, j'ai entendu ces choses. » Voilà. C'est parce que Jean a vu, parce qu'il a entendu ces choses qu'il nous révèle, et bien qu'il nous les communique et que nous pouvons croire, parce que nous avons l'attestation d'un homme qui a vu. Il n'a pas simplement imaginé, Il n'a pas cru ces choses comme cela par lui-même. Il a vu ces choses, il les a entendues et nous les a communiquées pour que nous croyions dans ces choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Et là, quand Jean entend et voit ces choses, qu'est-ce qu'il fait au verset 8 ? Jean se prosterne devant l'ange. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais Jean est réprimandé parce que nous n'avons à adorer personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Même pas un ange. Nous n'avons pas à adorer un ange, ni quoi que ce soit. Alors que dans Apocalypse 1:17, devant Jésus, Jean tombe à ses pieds et là, il n'y a pas de réprimande vis-à-vis de Jean. La Bible nous dit, tu adoreras Dieu seul et tu le serviras lui seul. C'est lui seul que nous devons adorer. Donc, l'ange lui dit au verset 9, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service. Ou ton compagnon d'esclavage dans le terme texte original. Voilà. L'ange et Jean, tous deux sont des compagnons de service. L'ange est aussi le compagnon des frères de Jean, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc l'ange dit à Jean d'adresser son adoration à Dieu. N'adorons qu'un seul, notre Sauveur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Au verset 10, il est dit, l'ange me dit, ne garde pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Ou ne scelle point les paroles. Des prophéties antérieures ont été scellées. Dans Daniel au chapitre 8, versets 26, 12, 4 à 10, il est dit, quant à toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles cachées, scelle le livre jusqu'au moment de la fin. Donc dans le prophète Daniel, il dit, tiens, scellé, ne révèle pas ces choses. Et là, il dit, au contraire. Daniel a vécu avant la crucifixion du Christ. L'attention était à la première venue du Christ. Mais après la croix, l'attention est dirigée vers le second avènement du Christ. Le temps où il retourne sur cette terre pour établir son royaume millénaire. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 2, il est dit « Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères à bien des reprises et de bien des façons, par les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Donc s'il dit « Ne tiens pas secrètes ces choses », c'est pour que nous sachions, pour que nous entendions ces choses. C'est pour que l'humanité, les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute race, entendent ce message. À l'époque, avec le peuple hébreu, il n'y avait que quelques initiés. Alors aujourd'hui, c'est pour le monde entier. Sachez que Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Tournez-vous vers lui, acceptez-le dans votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est pas demain, ne prenez pas votre décision demain. Demain, c'est peut-être trop tard, c'est aujourd'hui qu'il faut vous décider. Aujourd'hui, je m'engage à croire et à servir Jésus-Christ, à suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne rejette pas, je ne dis pas, oui, j'aurai le temps quand j'aurai la retraite. Combien nous ont dit cela, oui, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de m'occuper de ces choses. Non, c'est maintenant qu'il faut nous occuper de ces choses. Sinon, ce sera trop tard. Daniel devait attendre la rédaction ou la révélation du dernier livre prophétique, l'Apocalypse. Les paroles prophétiques de ce livre, Jean ne doit plus les garder secrètes. Le monde doit connaître le message de ce livre. Les paroles de bénédiction, les paroles de malédiction sont destinées à être proclamées pour produire le fruit de l'obéissance et de l'adoration. Combien de fois même, ce que François a introduit le culte, les cantiques, croire et obéir. Voilà pourquoi ces choses nous ont été révélées, c'est pour que nous croyions, que nous obéissions. Le temps est proche, il y a ici une notion d'imminence, d'approche de la fin. Ne garde pas secrète, mais révèle-les, proclame-les. Et aujourd'hui, c'est vrai, combien c'est difficile de rendre témoignage, combien c'est difficile. Quels sont les cœurs qui acceptent de s'ouvrir ou de poser des questions même. Et plus ça ira, plus ce sera difficile. Au verset 11, Apocalypse 22, ceux qui rejettent les avertissements de Dieu scellent leur destinée. Ceux qui rejettent les avertissements de Dieu, ceux qui rejettent ce que Dieu nous demande, nous commande de proclamer, ceux qui rejettent cela, eh bien, leur destinée est scellée. C'est terrible. L'enfer où ils conserveront pour l'éternité leur nature mauvaise et méchante. Voilà leur destinée de ceux qui s'entêtent, qui refusent. Ah oui, il y en a un médecin qui disait, ah oui, le diable avec des cornes. N'imaginons pas, le diable n'est pas comme ce que certaines religions présentent. Le diable n'est pas comme ça. Hein? Le diable, comment est le diable? On ne peut pas dire comment il est. Est-ce qu'on peut dire comment il est? Comment Dieu est lumineux, Dieu est beau, Dieu est glorieux. Et le diable, comment est-il? On ne peut pas lui donner un visage, on ne peut pas le caricaturer. Hein? En tout cas, mieux vaut choisir son camp. Il n'y a pas deux intermédiaires. Il n'y a pas le ciel, l'enfer, et puis un autre endroit où je pourrais aussi être heureux. Non, c'est le ciel, le bonheur éternel avec lui, ou l'enfer, et c'est la perdition, c'est un lac de feu et de soufre. C'est terrible de subir la colère de Dieu. Hein? Et là, ce sera vraiment dans un lac de feu et de soufre où les hommes pleureront et garderont leur nature mauvaise et méchante l'éternité durant. Les gens seront cruels. Que se passera-t-il? Que vivra-t-il? Jésus nous en donne quelques exemples et nous dit que les hommes se mordront la langue de douleur. Il y aura des douleurs indescriptibles. La malédiction a commencé avec la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Elle a consisté avec la malédiction sur le serpent, sur la femme, sur l'homme et sur la terre à cause du péché de l'homme, de Adam. Et nous aussi, tant que nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, tant que nous n'avons pas pris un engagement de suivre, d'aimer Jésus-Christ, nous vivons sous la condamnation, nous vivons sous la malédiction de Dieu. Pour sortir de cette malédiction, ouvrons nos cœurs et acceptons-le comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Ces malédictions ont plongé toute l'humanité depuis Adam. Si Adam n'avait pas péché, la Bible aurait été condensée en Genèse 1, 2 et conduite directement à Apocalypse 21, 22. Il n'y aurait pas eu toutes ces querelles, toutes ces misères, toutes ces révoltes, tout ce que le peuple hébreu a connu et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour quiconque sera jeté dans le lac de feu, il lui sera possible d'améliorer sa condition ou d'être transféré en la présence de Dieu? Non, impossible. Quiconque sera jeté dans le lac de feu, il lui sera impossible d'améliorer sa condition. Il ne pourra plus être transféré en la présence de Dieu. C'est ici-bas, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je dois prendre une décision d'aimer ou de ne pas aimer Dieu, de suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre. Devant le tribunal de Christ, il sera inutile à cet homme qui s'entête d'argumenter, même par des émotions humaines ou un peu de pénitence. Ah oui, si je me repens un petit peu, si je fais un peu de... Alors peut-être qu'il va... Non, non, trop tard. Ce sera trop tard à ce moment-là. Le jugement de Dieu sera définitif. Mais bénis soit ceux qui participeront à la seconde résurrection. Tout commencera dans l'éternité, comme disait David un jour dans son message, que l'éternité commence déjà maintenant, la vie éternelle, elle commence déjà maintenant. Leur destinée éternelle sera définitivement fixée, car ils ont réagi positivement à ces avertissements. Ah, j'ai compris, j'ai reçu le message, je l'accepte, je me soumets, je crois, j'obéis. Voilà. Et je suis Jésus-Christ. Le Seigneur déclare qu'il n'y aura plus de malédiction là-haut dans sa présence parce qu'il les aura enlevés. Dieu fera toutes choses nouvelles. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la nouvelle ville. Il y aura un trône, il y aura l'agneau, mais bien plus que là. Déjà, c'est déjà beau, n'est-ce pas? Mais bien plus que cela, nous servirons notre Dieu dans la gloire. Nous serons là pour servir Dieu. Nous ne serons pas là les bras croisés dans la tente en train... Non, nous le servirons. Il est digne d'être servi. Nous le servirons dans sa gloire avec une justice et une sainteté parfaite que seule existe au ciel. La dernière fois, je vous avais parlé, j'avais énuméré les 7 béatitudes que l'on trouve dans l'Apocalypse. 7 béatitudes qui constituent une sorte de résumé du message de l'Apocalypse. La première des béatitudes, on le trouve dans Apocalypse, chapitre verset 1, verset 3. Dans nos Bibles, il est écrit « heureux », mais je préfère le mot « béni ».« Bénis sont ceux qui lisent, qui écoutent, qui gardent, qui mettent en pratique, qui font, qui obéissent ce qui est écrit dans cette prophétie. » Cette prophétie, ce n'est pas simplement l'Apocalypse, c'est toute la Bible qui est la prophétie, qui est prophétie. Donc, béni soit celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Tenez fermement du moins ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà. Lire. Est-ce que je prends du temps pour lire la Bible? Est-ce que je prends du temps? Combien de fois par semaine je lis la Bible? Le dimanche, quand je viens à l'église, et puis c'est tout, je ferme la Bible. À chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu me parle. Chaque fois que je ferme la Bible, je ferme la bouche de Dieu, j'empêche Dieu de me parler. Quand j'ouvre la Bible, Dieu me parle. Il me dit qu'il est amour. Il me dit qu'il veut être mon sauveur. Il me parle du bonheur éternel. Il me parle de la gloire à venir. Il me parle de toutes les richesses, de tous les trésors qui sont cachés en lui. Il me dit ce qu'il est lui. Il me dit ce que je suis moi pour lui. Je suis précieux. Béni soit le jour de ma naissance, le jour où je suis né, parce qu'un jour j'hériterai de sa gloire, un jour je serai dans sa présence. Si je n'étais pas sur cette terre, mais ce serait terrible, n'est-ce pas? Mais là, parce que je suis venu sur la terre, un jour je serai dans sa présence, un jour je verrai mon Dieu, un jour je serai avec mon Sauveur, un jour je serai dans la gloire avec lui. Ouvrons nos Bibles, pas simplement une fois par semaine, pas simplement deux fois par semaine, mais tous les jours. Comme l'apôtre Pierre a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et spirituel de la parole de Dieu. Un nouveau-né, il se nourrit du sein de sa maman le dimanche matin simplement. C'est tous les jours. Et est-ce que c'est une fois par jour qu'il réclame le sein de sa maman? Vous qui avez été maman, hein, si je vous demandais combien de fois le bébé réclame le sein de la maman, c'est une fois, c'est deux fois, c'est trois fois, jusqu'à sept fois par jour même, peut-être davantage. C'est vrai qu'on a besoin de plonger jour après jour, plusieurs fois par jour, nos regards dans la parole de Dieu. Lire, bénis sont ceux qui lisent la parole de Dieu. Bénis sont ceux qui écoutent, parce que je lis. Mais si je n'écoute pas ce que me dit la Bible, à quoi ça me sert? Je vais lire, je vais lire comme un roman, je vais lire comme un livre ordinaire. Non, je lis ce livre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi, Seigneur. Je veux entendre ce que tu veux me dire au travers de ta parole. Je veux écouter, je veux entendre. Et si je lis, si j'écoute ce que Dieu me dit au travers de sa parole, pas simplement, encore une fois, le dimanche matin, si je lis, si j'écoute, alors c'est pour que je mette en pratique. C'est pour que j'obéisse, que je mette en pratique donc ce qui est écrit. Voilà, je lis, j'écoute pour obéir, pour mettre en pratique. La lecture de la parole ou l'entendre prononcée par un autre, c'est une chose. Je dois le faire personnellement, pour moi-même, pour ma propre âme. Je dois intégrer profondément dans mon cœur sa parole et lui permettre d'être la boussole de notre vie. La boussole de notre vie, c'est la Bible. Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux que je fasse? Quand nous sommes partis en Afrique, on n'est pas partis comme ça à l'aventure, parce que, ah bon, c'est bon d'être en Afrique, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud et tout ça. Non. C'est parce que nous avons lu jour et nuit. Nous avons lu la Bible. Et quand nous sommes tombés sur Marc, chapitre 10, au verset 28, 29, 30, « Quiconque quittera à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères et sœurs, ses terres, etc., recevra ici-bas au centuple des frères et des sœurs avec des persécutions. » Nous avons lu la parole de Dieu, nous avons écouté ce que Dieu disait, et Dieu nous demandait « Es-tu ce quiconque? Est-ce que tu es prêt à tout laisser ?» Tu as une belle maison là-bas, on était à Maurie, on avait des jardins, j'avais acheté des vignes, Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour aller là-bas en Afrique? Voilà. C'est lui qui me posait la question. Si nous sommes disposés avec un cœur ouvert, eh bien, Dieu va nous parler. Parce que tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, il le fait au travers de sa parole. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par sa parole. Et rien de ce qu'il fait ne le fait sans sa parole. Donc s'il n'y a pas de parole, Dieu ne fera rien dans notre vie. Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, il le fera par sa parole. Mais si nous fermons, si nous gardons jour après jour sa parole fermée, pas de bénédiction. La bénédiction pour ceux qui lisent, pour ceux qui écoutent la parole, et pour ceux qui la mettent en pratique, qui obéissent à sa parole. Intégrer profondément dans nos cœurs cette parole et lui permettre d'être la boussole de notre vie. Où je dois aller? Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Voilà. Dieu nous parlera, Dieu nous conduira. Savoir et croire de tout notre cœur nous rapproche de Dieu. Savoir et croire de tout notre cœur nous rapproche de Dieu et change tout au sujet de notre vie. Savoir et croire de tout notre cœur nous rapproche de Dieu et change tout au sujet de notre vie. C'est vrai, si je n'avais pas su, si je ne m'étais pas nourri de la parole de Dieu, si je n'avais pas lu sa parole, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu qui me dit « Es-tu prêt? Es-tu prêt à tout laisser par amour pour moi? Es-tu prêt à partir là où je te montrerai ?» Eh bien, oui, je serais peut-être un. Est-ce que je serais encore croyant? Qu'est-ce que je serais? Non. Savoir. Comment on acquiert le savoir? En lisant, en nous nourrissant. Comment on peut augmenter notre foi? Par la lecture de la Bible. La Bible est là pour nourrir notre foi, pour stimuler notre foi, pour encourager notre foi, pour enrichir notre foi, pour rendre un fondement solide. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Christ. Vous voyez, si nous sommes attachés à sa parole c'est une lumière sur notre chemin. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à sa parole. Le psalmiste disait « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Ou encore « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Deuxième bénédiction, c'est au chapitre 14 et au verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, bénissons les morts qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Bénissons ceux qui meurent. bénissons ceux qui meurent, ou bénissons les morts qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Il y en a dans l'Église, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans, 6 ans que nous sommes dans l'Église. On en a vu déjà partir, qui ne sont plus déjà. Voilà, ils se reposent dans leurs œuvres. Ils sont déjà dans la présence du Seigneur. On a parlé de Christine tout à l'heure. Combien de temps il lui reste à vivre, nous ne le savons pas. Dieu peut lui accorder un répit, mais ce qui compte, c'est d'être jour et nuit prêt. Prêt à quitter ce monde pour nous présenter devant Dieu pour l'éternité. C'est l'éternité qui s'ouvre à ce moment-là. Bénissons ceux qui meurent donc dans le Seigneur dès à présent. Même si la mort, comme martyr, peut nous être demandée, nous avons la promesse que ce que nous faisons ne sera pas oublié. Nous serons honorés pour ce que nous aurons fait pour lui. Voilà. Tout ce que nous faisons pour lui, un jour, eh bien, nous en recevrons la récompense, n'est-ce pas? Nous en serons honorés. Lorsque nous donnons notre monde, tout ce qui est à nous, à Jésus-Christ, il nous promet de s'en souvenir, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, on l'offre à Dieu, on le donne à Dieu. Et alors il nous promet de s'en souvenir, de nous donner quelque chose de beaucoup plus riche et de plus significatif que ce que nous pouvons stocker dans cette vie. Lorsque nous donnons notre monde à Jésus-Christ, il nous promet de s'en souvenir et de nous donner quelque chose de beaucoup plus riche et de plus significatif que ce que nous pouvons stocker dans cette vie. Nous pouvons accumuler, mais à quoi ça sert? Troisième bénédiction, Apocalypse 16, 15. Béni soit celui qui reste éveillé et garde ses vêtements sur lui, pour ne pas marcher nu et laisser voir sa honte. Voilà. Sans la parole de Dieu, sans sa parole, sans la parole de Dieu, nous sommes comme nus devant Dieu, devant les hommes, dans ce monde. Le Christ n'a jamais dit que la fin est ici, mais plutôt que la fin est proche. Ses disciples, dans chaque âge, ont ressenti la tension entre leur monde actuel et la fin de l'âge. La plupart ont eu le sentiment que le retour du Christ dans leur vie était imminent. Observons les temps et les événements autour de nous. Mais il est tout aussi important de regarder en nous-mêmes. Est-ce que notre personne intérieure reflète les valeurs apportées à sa seconde venue? Est-ce que nous veillons à intégrer le premier ensemble de béatitudes trouvé dans Matthieu 5? Voilà. Donc, restons éveillés. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Veillez et priez, parce que vous ne savez l'heure, ni le jour. Et gardons nos vêtements, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune souillure, aucune tache, ou que rien ne vienne souiller notre communion, notre relation avec notre Dieu. Quatrième bénédiction, Apocalypse 19, verset 9. Bénissons ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Que demander de plus extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus extraordinaire de se savoir invité au festin des noces de l'agneau? Il y a eu des noces, il y a eu les noces de Fanette et de François, il y a eu... On se réjouit, n'est-ce pas, quand il y a une noce dans l'Église, on se réjouit. Mais là, les noces de l'agneau. Nous sommes appelés son épouse, et l'Église de Jésus-Christ est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Si nous sommes appelés l'épouse, lui, il est notre époux. Et il attend avec impatience, avec un soupir lui-même, il désire que ce moment approche. Est-ce que nous désirons nous-mêmes que ce jour vienne et qu'il soit tout proche? On voudrait y être demain, aujourd'hui même, ce soir, on voudrait déjà être dans sa présence, que les noces de l'agneau commencent déjà ce soir. Bénissons ceux qui sont invités au festin. Il y en a qui ne sont pas mariés depuis si longtemps, n'est-ce pas? Il y a encore des jeunes mariés, même si c'est 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Voilà. C'était des jours heureux. Mais quel jour heureux lorsque nous serons... Nous verrons ces noces de l'agneau. Nous rentrerons dans un cortège nuptial. Nous serons là pour aller à la rencontre de notre époux. Quand on est amoureux, est-ce qu'il ne nous tarde pas? On est amoureux, puis on est séparés par distance. Quand ils étaient en Angleterre, elles étaient filles au père là-bas en Angleterre. Moi, j'étais à Marseille, je faisais des études d'assistance sociale. Il y avait 1000, 1500, mais je prenais le matin la voiture pour aller la rejoindre là-bas jusqu'à Dieppe. Je m'attendais qu'elle prenne le bateau et qu'on se retrouve sur le port de Dieppe, parce qu'il me tardait de revoir son visage. Est-ce qu'il ne nous tarde pas de voir le visage de notre époux? Nous entendons parler de lui, nous l'aimons sans l'avoir vu, mais qu'est-ce que ce sera ce jour où nous le verrons tel qu'il est? Oui, désirons vraiment ce moment-là. Bénis sont ceux qui sont invités. Mon frère, ma sœur, tu es invité si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu lis et tu gardes sa parole, si tu mets en pratique sa parole, tu es un invité du Seigneur. Mais si tu le rejettes, si tu t'entêtes encore, si tu t'enfermes encore, et que tu ne capitules pas devant lui, alors tu ne fais pas partie de ses invités. Pour être un invité, eh bien, il y a des conditions à remplir. À un mariage, à une noce, c'est pas n'importe qui, même pour François Offanet. Non, c'était les amis, c'était les intimes, c'était les chrétiens, c'était, bon, ou d'autres. Ceux qui connaissaient. Voilà. Et il nous faut connaître notre Sauveur Jésus-Christ pour être son invité. Dans l'Apocalypse, sa seconde venue est comparée donc à un dîner de fête de mariage. Dans les temps anciens, ce point culminant de la vie du village durait pendant des jours. Ce n'était pas simplement un jour de réjouissance. Il était profondément attendu, préparé avec diligence, avec empressement dans tous les détails, et profondément apprécié. Aujourd'hui, à l'intronisation du président, combien ça a été préparé, combien ça a été, quelle mise en scène, n'est-ce pas? Mais alors, pour notre roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, quelle préparation, mes amis! On doit préparer nos cœurs, préparer nos âmes, préparer notre esprit. Tout est prêt là-haut. Lui, il a tout préparé. Il faut que nous soyons prêts aussi pour ce moment-là. Cette invitation ne vient pas sans que Dieu ne l'ait préparée ou sans avoir calculé le coût pour le bénéficiaire. On dit là-bas en Iran, il y a toute une organisation qui paye des millions de dollars pour préparer la venue du 13e ou du 12e... comme un prophète, quoi. Le calife, oui, voilà. Ils préparent, ils ont des réunions, ils se rencontrent pour préparer comment... Voilà, depuis des années, ils font cela. Et ils n'arrivent toujours pas. Voilà, eux, ils se préparent, les musulmans se préparent. Et les chrétiens, est-ce qu'ils se préparent à ce festin des noces de l'agneau? 2 Corinthiens 11, 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux, afin que je vous présente comme une vierge chaste à Christ. » Je vous ai fiancé à un seul époux, afin que je vous présente comme une vierge chaste à Christ. À notre résurrection, lors de sa seconde venue, le Christ a l'intention de mener à bonne fin cet engagement. Il nous offrira sa main, nous prendra par la main. Bien plus, il nous donnera l'entrée dans son royaume. Quel moment incroyable de joie et de célébration sera ce moment-là. Quel jour de gloire, quel jour de joie. Oui, quel jour de joie, de gloire, le jour où Jésus m'a sauvé. Mais quel jour de joie et de gloire, beaucoup plus immense, lorsque nous serons encore dans sa présence pour l'éternité. Quel moment incroyable de joie et de célébration sera ce moment-là. Cinquième bénédiction, chapitre 20, verset 6. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres, sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, ça c'est l'ouverture du millénium. Beaucoup de chrétiens sont morts sous la persécution et jusqu'à ce jour, on compte qu'à peu près un chrétien dans le monde meurt toutes les 25 minutes. Dans le monde, 25 minutes, il y a un chrétien qui meurt à cause de sa foi. Pour ses disciples fidèles, pendant ces moments douloureux, il promet une récompense allant bien au-delà de leurs grands moments d'épreuve humaine. Qu'est-ce que les épreuves, qu'est-ce que les difficultés, qu'est-ce que les souffrances d'ici-bas en comparaison avec l'énorme, l'éternité de joie et de gloire dans la présence du Seigneur. Sixième bénédiction, chapitre 22, verset 7. Béni soit celui qui garde, qui observe les paroles de la prophétie de ce livre. On l'a retrouvé au chapitre 1er déjà. Et puis la dernière bénédiction, bénissons ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront manger du fruit de l'arbre de vie et franchir les portes de la ville. Enfin, enfin le jour est arrivé. Enfin le jour est arrivé parce que nous avons lavé notre robe, nous avons lavé notre cœur, nous avons remis notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit dans la Bible, n'est-ce pas ? Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà. Dieu attend que nous lui donnions notre cœur. Est-ce que nous avons un cœur seulement ? Oui, nous avons un cœur. Donnons-lui, offrons-lui notre cœur. Alors si nous lui offrons dans l'humilité, dans la repentance, alors il lavera notre cœur. Il le blanchira. Ce sera nos robes, il les lavera à ce moment-là. Et parce que nos robes auront été lavées, blanchies dans le sang de l'agneau, alors nous pourrons manger du fruit de l'arbre de vie et franchir les portes de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, et être dans la présence éternelle, dans sa présence éternelle. L'invitation et la demande sont évidentes. Premièrement, écoutez et obéissez aux paroles de l'Apocalypse et du livre de la Bible. Faites-le jusqu'à la mort et vous parviendrez au repos, au règne des fidèles. Et troisième point, l'épouse. Alors, est revêtue d'une robe pure, invité au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 22, verset 4, voilà, c'est la conclusion. Nous, les serviteurs, nous verrons sa face. 1 Corinthiens 13, 12 nous dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous le verrons face à face. C'est vrai, pour le moment, on l'aime sans l'avoir vu. Comment est-il? Dans la Bible, c'est vrai, on peut connaître le cœur de Dieu, on peut découvrir, mais comment est-il? On entend les visions de ce que des hommes, ils ont vu une grande lumière et ne pouvaient plus pas mesurer la hauteur ou la profondeur de cette lumière, ni la longueur, ni la largeur. Ils ont vu une lumière, ils ont vu ou un personnage revêtu d'une blancheur éclatante. Il y en a qui ont vécu un peu, qui ont vu un peu de ce que Jésus était, mais qu'est-ce que ce sera lorsque nous le verrons face à face, nous, personnellement, les autres? C'est bien, on entend les témoignages des autres, mais moi, devant lui. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun de vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, sa paix. Et gardez cette paix jusqu'à votre dernier jour. Amen.